il y a un verset que j'ai lu il n'y a pas longtemps, en Jérémie, c'est au chapitre 33, verset 3, qui dit, c'est Dieu qui parle à Jérémie et qui lui dit « Crie vers moi et je te répondrai et je te déclarerai des choses grandes et cachées que tu ne sais pas. » Et en lisant ce verset, je me disais que ça m'a donné envie en fait de chercher dans la Bible cette notion, toutes les fois où Dieu nous parle de choses cachées, qu'on ne connaît pas, qui sont au-delà des choses qu'on voit dans la vie réelle, et où il nous encourage à les chercher ou à les connaître. Et donc voilà, du coup, j'ai regardé un petit peu ce thème-là, et c'est ce qu'on va regarder cet après-midi. En fait, il y a plusieurs choses qu'on voit dans la Bible, dans toute l'histoire de l'humanité. Il y a des choses qui ont été cachées pendant un temps, et puis que Dieu a révélé ensuite. Donc Dieu n'a pas révélé tout d'un coup, il ne nous révèle pas tout d'un coup. Il reste des choses cachées à différentes périodes de l'histoire et encore maintenant. Et en fait, il a utilisé pendant toute l'histoire de l'humanité, d'abord les prophètes, et puis ensuite Jésus-Christ, et puis ensuite les apôtres, pour révéler petit à petit de plus en plus de choses. C'est ce qu'on appelle la révélation progressive. Et du coup, ça fait un contraste aujourd'hui entre les incrédules et les croyants, parce que les incrédules n'ont pas accès à cette révélation. Alors, ils ont accès dans le sens où ils peuvent lire la Bible, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit qui leur parle et ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Donc, ils n'ont pas cette connaissance-là des choses cachées de Dieu qui nous a été révélée. Et voilà, donc je pensais juste à ça, au privilège qu'on a en tant que croyant, que Dieu nous ait révélé des choses cachées, presque en avant-première en fait. On est les premiers au courant, il veut nous faire savoir ses secrets. Et en fait, il y a plusieurs versets dans la parole où Dieu invite les croyants à se pencher sur ses secrets. Où en fait, on voit que Dieu, il n'est pas cachotier en fait. S'il garde des choses qui ne nous révèle pas tout de suite, c'est soit parce qu'on peut pas encore les recevoir, on n'a pas la capacité, on pourrait pas les supporter, c'est pas encore le temps pour nous de les comprendre, ou bien c'est parce que dans son plan aussi, c'est important que pour le moment on ne le sache pas, mais c'est son désir en revanche de nous révéler tout ce qu'on peut déjà comprendre, tout ce dont on a besoin pour notre vie d'aujourd'hui, et il le fait et il nous invite à entrer dedans. Il y a plusieurs versets comme ça, donc celui que je vous ai lu de Jérémie 33, c'est le cas. Mais aussi en Ésaïe 48, au verset 6, il dit « Je t'ai fait entendre des choses nouvelles, dès maintenant, des choses cachées que tu n'as pas connues. » Et puis aussi en Deutéronome 29, c'est un verset qu'on a déjà entendu souvent. « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. » Ça, c'est celles qu'il, pour le moment, qu'il ne comprend pas. Elles sont à lui et à lui seul. Mais par contre, les choses révélées sont à nous et à nos fils, à toujours, afin que nous pratiquions toutes les paroles de cette loi. Et les choses révélées, c'est les secrets qu'il nous a déjà révélés, en fait. C'est frappant ce contraste entre les croyants et les incroyants pour comprendre les choses cachées de Dieu. C'est frappant dans les évangiles. En fait, on voit tout le temps, c'est même un peu surprenant quand on lit les évangiles pour la première fois. On voit tout le temps cette différence parmi les gens qui écoutent Jésus, entre ceux qui comprennent pas du tout ce qu'il raconte, et puis ceux qui peut-être ne comprennent pas du premier coup, mais qui vont lui demander après de leur expliquer. Et souvent il y a cette différence, et notamment entre les pharisiens, qui régulièrement ne comprennent pas ce que Jésus est en train de dire, mais la foule aussi souvent, qui ne comprend pas. Et souvent, on voit les disciples après qui viennent voir Jésus et qui demandent des explications pour les choses qu'ils n'ont pas comprises. Et en fait, Jésus en parle clairement de ça. Il dit même que c'est pour ça qu'il parle en parabole, parce que ça a été annoncé dans l'Ancien Testament que ceux qui n'ont pas à cœur d'avoir une relation avec Dieu, de recevoir Dieu, d'apprendre à le connaître, ces choses leur sont cachées, comme s'ils étaient aveugles. Il y a plusieurs versets qui disent ça. En fait, quand on voit les gens qui viennent à Jésus, on voit que ceux qui veulent vraiment connaître le Messie, qui veulent vraiment savoir qui il est, qui recherchent vraiment la volonté de Dieu, la parole de Dieu, en général, il y a une parole spéciale pour eux. Alors que ceux qui viennent et qui posent soit des questions pour le piéger, soit des questions très générales, juste de connaissance, ceux-là, en général, ils comprennent pas la réponse. Ils ont une réponse qui leur convient pas. Et Jésus le dit quand il dit en Matthieu 7, verset 8, « Quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui heurte, il sera ouvert. » C'est un verset moi, qui m'a souvent posé des questions, celui-là et puis d'autres un peu similaires dans les Écritures, parce qu'on a l'impression que ça veut dire que si on demande quelque chose à Dieu, on va avoir automatiquement ce qu'on a demandé. Mais en fait, c'est pas du tout le sens du verset. Le sens du verset, c'est que si on recherche Dieu, si on s'approche de lui, si on veut le découvrir, si on veut recevoir de lui, on va comprendre ce qu'il va nous dire, il va avoir une communication pour nous, il va nous révéler des choses, il va nous faire grandir dans la connaissance qu'on a de lui. Alors que si on n'a pas ce désir de chercher Dieu, on va passer à côté de ces choses-là, en fait, on va juste vivre sans s'en occuper. Pour ce qui est des paraboles, c'était même annoncé dans l'Ancien Testament, en fait, que Jésus allait parler de manière pas claire pour ceux qui le cherchaient pas. Il le dit en Jésus quand il parle à la foule, en Matthieu 13, au verset 34 à 36. Jésus dit à la foule toutes ces choses en paraboles, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Et ça, c'est une citation du psaume 78, verset 2. Et puis ensuite, on voit qu'il renvoie la foule, qu'il rentre dans la maison avec les disciples, et les disciples viennent vers lui et lui disent « Mais à nous, explique-nous la parabole. » Et là, Jésus leur explique et leur explique en détail. Mais il y a d'autres passages encore dans l'Ancien Testament qui annoncent ça, que la révélation de Dieu est cachée à ceux qui ne le cherchent pas de tout leur cœur. On voit ça en Ésaïe au chapitre 29, dans les versets 10 à 14. L'Éternel a répandu sur... Là, c'est le prophète Ésaïe qui parle au peuple de la parole de l'Éternel. « L'Éternel a répandu sur vous un esprit de profond sommeil. Il a bandé vos yeux. Les prophètes et vos chefs, les voyants, il les a couverts. Et la vision de tout vous sera comme les paroles d'un livre scellé qu'on donne à quelqu'un qui sait lire, en disant « Lis ceci, je te prie ». Et il dit « Je ne peux pas, il est scellé ». Et on donne le livre à celui qui ne sait pas lire en disant « Lis ceci, je te prie ». Et il dit « Je ne sais pas lire ». Et le Seigneur dit « Parce que ce peuple s'approche de moi de sa bouche et qu'il m'honore de leurs lèvres et que leur cœur est éloigné de moi et que leur crainte de moi est un commandement d'homme enseigné, c'est pourquoi voici j'agirai encore merveilleusement ». Et je ferai une œuvre merveilleuse envers ce peuple. La sagesse de ses sages périra, et l'intelligence de ses intelligents se cachera. La fin du passage, là, la sagesse de ses sages périra, et l'intelligence de ses intelligents se cachera, je la mets en relation avec ce que Jésus disait quand il était sur la terre, quand il priait le Père en disant « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits-enfants. » Et tout le ministère de Jésus, il était à propos de ça, en fait. Pendant tout le temps où il a été sur la terre, il s'est pas adressé aux sages et aux intelligents pas dans le sens où les sages et les intelligents pouvaient pas recevoir Jésus. Mais s'ils venaient à Jésus avec du haut de leur sagesse et de leur intelligence, comme les pharisiens, en pensant qu'ils savaient tout et en venant juste pour essayer de le confondre, eh ben, ils apprenaient rien de lui, ils recevaient rien de lui. Alors que ceux qui venaient à lui avec tout leur cœur parce qu'ils cherchaient vraiment, là, ils le rencontraient. Et c'était pas réservé aux gens qui savaient rien. Quand on regardait Nicodème, Nicodème, c'était un sage et un intelligent de son temps. Mais lui, il s'est approché de Jésus pas avec sa sagesse et son intelligence, mais avec son cœur. Et du coup, il a reçu une révélation extraordinaire. C'est le premier à qui Jésus a annoncé comment on pouvait être sauvé en étant né de nouveau. Donc c'est vraiment le point, en fait, pour connaître les choses cachées de Dieu, c'est de venir avec un cœur d'enfant et en attendant, en lui demandant de nous révéler les choses, pas en croyant qu'on sait déjà des choses, pas avec un esprit religieux, pas en pensant qu'on mérite qu'il nous explique quelque chose parce qu'on en est déjà à ce point-là dans notre vie chrétienne, que c'est normal. Non, venir à chaque fois avec ce cœur d'enfant et puis de dire « Seigneur, je comprends pas, c'est trop compliqué ». Je lis ta Bible, si je la lis avec ma sagesse humaine, eh ben je suis comme ces personnes dont il est question en Ésaïe, à qui on donne un livre scellé, donc fermé avec un sceau, en lui disant « Lis, je peux pas lire, c'est fermé ». Ou alors un livre qu'on donne à quelqu'un qui sait pas lire. ça n'a aucun intérêt, il ne peut pas le lire. Si on s'approche de Dieu avec nos connaissances naturelles, c'est exactement ce qu'on va trouver. La Bible va être un livre scellé, où ça va être comme si on ne savait pas lire. On ne va pas du tout recevoir ce que Dieu a à nous dire. Alors que si on arrive juste avec un cœur simple, un cœur d'enfant, et en disant « Seigneur, il y a plein de choses qui me sont cachées, j'en suis vraiment consciente parce que je me sens toute petite et il y a tellement de choses que je ne comprends pas dans ce monde et à plus forte raison au-delà. Mais je viens vers toi parce que je sais que tu es pour de révéler les choses à tes enfants. Et montre-moi, apprends-moi des choses, montre-moi qui tu es, apprends-moi à mieux te connaître. » Alors c'est sûr qu'on va recevoir des révélations de la part de Dieu. Alors ça ne veut pas dire qu'on va tout comprendre pour autant. On voit dans les évangiles que ses disciples, il y a plein de fois où ils n'arrivaient pas à comprendre non plus. D'abord, ils comprenaient en général pas la première fois quand ils disaient les choses en public. Ils avaient besoin de revenir en privé pour que Jésus leur explique les choses plus clairement. Mais même des fois, quand Jésus s'adressait à eux personnellement, ils n'ont pas compris tout de suite parce que ça les dépassait tellement ce que Jésus leur disait qu'ils n'avaient pas encore les clés pour comprendre. On voit ça quand Jésus a commencé à leur expliquer qu'il allait souffrir. Ça les dépassait complètement, ils ne comprenaient pas de quoi ils parlaient, ils l'ont compris que longtemps après. On voit ça par exemple en Luc 9, les versets 44 et 45. Jésus leur dit « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes ». Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Peut-être c'était ça le problème. C'est que alors qu'ils avaient eu la simplicité de demander à Jésus de leur expliquer les paraboles qu'ils n'avaient pas comprises pendant qu'il les disait aux foules, là, quand Jésus leur dit « le Fils de l'homme va souffrir », ils n'osent pas lui demander. Ils n'osent pas lui demander ce qu'il veut dire. Peut-être que Jésus leur aurait expliqué. En tout cas, là, ils n'ont pas du tout compris ce que Jésus disait. Et on voit, c'est juste après, on voit ça en Jean 12, verset 16. « Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. » Donc, il y a aussi des choses que Dieu nous révèle, mais qu'on ne comprend pas entièrement au moment où il nous les révèle. Et il ne faut pas que ça nous trouble de ne pas tout comprendre, y compris aux révélations de Dieu. Je l'ai déjà dit plein de fois, j'espère que ça ne va pas être encore une redite, mais moi, c'est vraiment une image qui m'avait touchée. Quand je l'ai entendu, Pasteur Chaleur parlait de ça en disant que il y a des questions auxquelles on n'a pas de réponse dans notre vie et à propos de la foi, à propos de la Bible. Et parfois, on veut tellement la réponse à cette question-là qu'on arrête d'avancer avec Dieu un peu de façon butée en disant tant que j'ai pas la réponse, je peux pas aller plus loin. Et en fait, si Dieu nous a pas encore donné la réponse à cette question-là, ça nous empêche pas de continuer à avancer dans tous les autres domaines. Et donc, Pasteur Chaleur avait cette image, les questions auxquelles vous n'avez pas encore de réponse, vous les mettez sur une étagère dans vos pensées ou chez vous, et puis vous les laissez là. Et puis peut-être un jour, dans des années, dans bien des jours, vous reviendrez vers l'étagère et vous prendrez la question et vous direz « Mais ça y est, j'ai la réponse en fait, ça fait longtemps que Dieu m'a répondu, je me rappelais même plus que je me l'étais posée. » Et puis peut-être aussi qu'il y a des questions qui resteront sur l'étagère jusqu'à ce qu'on voit Jésus dans la gloire. Et on n'aura la réponse qu'à ce moment-là. Mais si Dieu ne nous révèle pas une chose, c'est qu'on n'en a pas besoin pour le moment. Si Dieu nous aime, il ne nous cacherait pas quelque chose dont on a besoin pour notre marche d'aujourd'hui. On peut vraiment avoir confiance en lui pour ça. C'est qu'il nous révèle les choses dont on a besoin. Et donc, s'il y a des choses qu'on comprend pas pour le moment, eh bien, c'est pas grave. On peut demander à Dieu de nous les montrer, de nous les expliquer, comme les disciples avaient cette liberté d'aller voir Jésus le soir et lui dire « Dis, on n'a pas compris ce que tu as dit cet après-midi à la foule, est-ce que tu peux nous expliquer ?» Donc on peut faire ça. Et puis si on comprend toujours pas la réponse de Jésus, eh ben c'est pas grave, c'est peut-être qu'on n'a pas encore les clés pour la comprendre maintenant, mais si c'est le cas, on n'en a pas besoin tout de suite. Donc on peut juste la mettre de côté pour le moment. Un autre chapitre important dans la parole de choses qui n'étaient pas révélées pendant un temps puis qui l'ont été ensuite, c'est tous les croyants de l'Ancien Testament en fait qui avaient aucune idée de ce que Dieu allait faire et ce qu'allait être l'Église. L'Église, c'était quelque chose qui a été caché pendant très longtemps. Les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas prophétisé sur l'Église parce qu'ils annonçaient juste le futur d'Israël, le retour du Messie. Mais ils voyaient pas cette parenthèse de l'Église parce que c'est quelque chose que Dieu avait laissé caché. et qui a été révélée ensuite au moment de la venue de Jésus et puis par les apôtres et en particulier l'apôtre Paul. Et on a plusieurs passages qui nous parlent de ça. L'apôtre Paul, il était très conscient de ça, qu'il avait été envoyé par Dieu pour révéler ce mystère, puisque lui, il avait un arrière-plan juif, il était juif. Donc, il savait très bien que c'était quelque chose qui était caché jusque-là dans la révélation juive, dans la parole de Dieu jusqu'à l'arrivée de Jésus. Et il était très conscient que Dieu l'utilisait pour annoncer ce mystère de l'Église, c'est-à-dire ce mystère que maintenant le salut n'était pas par les Juifs, mais qu'il était en Jésus-Christ et que du coup ça s'adressait aux Juifs et à toutes les nations. Il n'y avait plus de différence. Donc je vais vous lire juste quelques passages où on voit Paul qui parle de ça. C'est des passages un peu longs, donc les cherchez peut-être pas, mais je vais juste vous les lire. Il y a un passage 3 notamment, les versets 1 à 9, qui dit « C'est pour cela que moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus pour vous, les nations, si du moins vous avez entendu parler de l'administration de la grâce de Dieu qui m'a été donnée envers vous, comment, par révélation, le mystère m'a été donné à connaître, ainsi que je l'ai déjà écrit en peu de mots, d'après quoi, en le lisant, vous pouvez comprendre quelle est mon intelligence dans le mystère du Christ, lequel, en d'autres générations, n'a pas été donné à connaître aux fils des hommes, comme il a été maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes par l'Esprit. Savoir que les nations seraient co-héritières et d'un même corps et co-participantes de sa promesse dans le Christ Jésus par l'Évangile. » Il dit qu'il est l'administrateur du mystère caché dès les siècles en Dieu qui a créé toute chose, ce mystère de l'Assemblée. On voit ça aussi en Colossiens au chapitre 1, verset 25. L'Église de laquelle je suis devenu serviteur, selon l'administration de Dieu qui m'a été donnée envers vous, le mystère qui avait été caché dès les siècles et dès les générations, mais qui a été maintenant manifesté à ses saints. Et puis, pasteur en a parlé il n'y a pas longtemps dans son étude sur la première épître de Pierre. Il parlait de ce mystère que les prophètes ont prophétisé de la grâce qui vous était destinée. Ils se sont informés, ils s'en sont enquis avec soin, recherchant quel temps ou quelle sorte de temps l'Esprit de Christ qui était en eux indiquait, rendant par avance témoignage des souffrances qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils administraient ces choses, qui vous sont maintenant annoncées par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle. Voilà, donc il y a eu toute cette période où l'Église était un mystère, et puis ça a été révélé ensuite par l'apôtre Paul. Et en fait, on voit à plein d'endroits dans les Écritures que c'est le cœur de Dieu de révéler ses secrets aux siens. Et pour ça, il a choisi des hommes tout au long de l'histoire pour révéler ses secrets. On voit ça aussi dans l'Ancien Testament, bien avant l'Église, que le Pharaon avait donné à Joseph quand il a changé son nom et qu'il a fait de lui le deuxième en Égypte après lui. Il l'a appelé Tsaphnath-Pnéhac. Et Tsaphnath-Pnéhac, ça veut dire révélateur de secrets. Il lui a donné ce nom-là parce que Joseph avait pu lui interpréter ses rêves et il a reconnu que c'était le Dieu qui révélait les secrets qui était derrière Joseph, et c'est pour ça qu'il lui a donné sa position élevée en Égypte. Mais voilà, c'était Dieu l'a utilisé pour révéler un secret, et puis ensuite au-delà de ça. Apparemment, quand on regarde le texte en Genèse 41, verset 45, c'est le premier sens, révélateur de secrets, du nouveau nom qui lui est donné, mais le deuxième, c'est sauveur du monde, ou soutien de la vie. Et en fait, je pensais qu'on est utilisé par Dieu de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on connaît des secrets que les incroyants ne connaissent pas. Quand vous réfléchissez à la façon dont les gens vivent leur vie, les gens qui connaissent pas Dieu, en fait, ils passent à côté de tellement de choses qui sont comme des secrets pour eux. Ils ne les connaissent pas du tout, ils n'ont même pas idée qu'ils existent. Et nous, on est là pour raconter aux gens les secrets de Dieu. Et si on fait ça, si on rentre dans cet appel, on devient sauveur du monde, soutien de la vie, en fait. On montre aux gens la voie du salut. Un autre révélateur de secrets que Dieu a utilisé, c'est Daniel, le prophète Daniel. Lui aussi, c'était par le moyen des songes qu'il a interprété pour le roi Nebuchadnezzar. Mais on voit, dans le chapitre 2 de Daniel, il y a je sais pas combien de fois cette expression « révéler les secrets ». Dieu d'abord révèle, Daniel prie et Dieu révèle son secret à Daniel pendant une vision de la nuit. Et après, le Nebuchadnezzar reconnaît que Dieu est un Dieu qui révèle ses secrets. En Daniel 2, verset 28, Daniel dit à Nebuchadnezzar, il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets et il fait savoir au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera à la fin des jours. Et le verset d'après, celui qui révèle les secrets te fait savoir ce qui va arriver. Et puis ensuite, il y a l'apôtre Jean à qui Dieu a donné la révélation de l'Apocalypse. Ça aussi, c'est une grosse révélation de secrets qu'on comprend pas entièrement non plus pour le moment. Mais Dieu aurait pu ne pas du tout nous donner d'indications sur ce qui va se passer à la fin des temps. Et il a choisi de révéler ses secrets par le moyen de Jean. Et il lui dit à la fin du livre, Apocalypse 22, verset 10, « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. » Donc ne les cache pas, en fait. C'est un secret qui est révélé. Et c'est, vous savez que c'est le nom du livre. Apocalypse, ça veut dire révélation en grec. C'est Dieu voulait nous faire savoir ce qui allait se passer à la fin pour nous encourager, pour nous faire regarder au-delà de nos circonstances présentes. Alors, ça ne veut pas dire que tout est révélé. Encore une fois, il y a des choses qui restent cachées. On s'en rend bien compte quand on lit l'Apocalypse, qu'on ne comprend pas tout pour le moment. Il y a des choses cachées que Dieu nous révélera plus tard. C'était vrai déjà au temps de Daniel. Daniel, au chapitre 12, verset 9, je crois que c'est l'ange Gabriel qui lui parle et qui lui dit « Va, Daniel, car ses paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. » Qu'il a une révélation, mais qui reste cachée pour le moment. Et puis aussi, en Apocalypse, il y a un moment au chapitre 10 où il y a sept tonnerres qui parlent sur la terre au moment des jugements de la tribulation. Et quand les sept tonnerres eurent parlé, j'allais écrire et j'ouïs une voix venant du ciel disant, scelle les choses que les sept tonnerres ont prononcées et ne les écris pas. Donc il y a des choses qu'on n'a pas à connaître encore. C'est pour ça aussi que ça sert à rien d'essayer d'interpréter à tout prix des choses qu'on comprend pas, notamment dans des prophéties difficiles. Il y a des choses évidentes que Dieu nous a données pour nous enseigner, et puis il y en a d'autres qui sont encore des mystères. Si Dieu a choisi de les cacher pour le moment, ça sert à rien d'essayer de les déchiffrer. Par contre, les choses qu'il nous a révélées, c'est pour qu'on se les approprie et puis qu'on étudie ce qu'il nous a révélé. Parce que c'est des choses qui nous encouragent, parce que c'est des choses qui nous font lever les yeux vers le ciel et qui nous font nous rappeler qu'il n'y a pas juste la vie commune, pratique qu'on vit tous les jours. Il n'y a pas juste les soucis du quotidien. Ça, c'est une partie de la réalité, mais c'est de loin pas la partie la plus importante. La partie la plus importante, c'est les choses que Dieu nous a révélées, qui vont venir, qui nous attendent. Et aussi des promesses pour le futur de révélations supplémentaires. Vous savez, je crois que c'est pour l'église de Pergame dans Apocalypse 2, quand Jésus parle à toutes les églises de la d'Asie Mineure et il leur donne des promesses pour celui qui vaincra, pour celui qui tiendra ferme. Et la promesse pour l'église de Pergame, c'est celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur le caillou un nouveau nom écrit que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Donc il y a des choses qu'on recevra au ciel, qui nous seront révélées au ciel, qui seront encore nouvelles, on aura encore des choses à découvrir et des secrets que Dieu nous révélera juste à ce moment-là. Mais dès maintenant, on peut juste être encouragé à penser à toutes ces choses et puis en même temps à réaliser aussi que on a le privilège d'être dans le secret de Dieu, mais c'est pas un secret qu'il nous a donné pour qu'on le garde. C'est un secret qu'il nous a donné pour qu'on le partage. Il y a des secrets qu'on donne aux gens en leur disant « t'en parles à personne, c'est un secret qu'il faut absolument garder ». C'est pas du tout ce secret-là que Dieu nous a révélé. Le secret que Dieu nous a révélé, c'est « voilà, je te dis ça, et maintenant toi, va le dire aux autres ». Et donc, c'est vraiment notre part d'être ses ambassadeurs et de dire aux gens « j'ai un secret à te raconter ». Les gens sont friands de secrets, ils demandent que ça. Et nous, on a le plus beau de tous les secrets à leur raconter. Et puis quand on pense de cette manière aussi, j'étais encouragée. J'écoutais ce matin une des dévotions de Pasteur Michel. J'ai un peu de retard parce que j'arrive pas à les écouter tous les jours. Donc c'est une d'il y a quelques jours. Et ça me touchait que ça soit un peu sur ce sujet. C'était Colossiens 3, versets 1 à 3, Si donc vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont en haut, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Si on réalise que notre vie est cachée avec Christ, à ce moment-là, c'est là que se trouve notre cœur, en fait. C'est là où notre vie est cachée. Donc, c'est en Christ, c'est en haut. Et du coup, on pense aux choses d'en haut, on pense à l'avenir qui nous attend, on pense qu'on va passer l'éternité avec Dieu. On pense qu'à Dieu qui est sur son trône en ce moment, qui nous voit, qui voit tout ce qui se passe sur cette terre, qui est en contrôle, qui n'est pas surpris de tout ce qui se passe, de tout ce qui nous arrive. On voit aussi les êtres chers qui nous ont précédés, qui sont là-haut dans la gloire, qu'on va revoir un jour. Et on vit différemment quand on voit ces choses-là. Quand on fixe les yeux sur les choses d'en haut, sur Jésus, et du coup, comme le dit le chant, les choses de la terre pâlissent peu à peu, les choses de la terre ont moins d'importance, ça devient secondaire. Donc voilà, je voulais juste vous encourager à ça, à rentrer dans les secrets que Dieu nous donne, à les apprécier pour ce qu'ils sont, pour des secrets, pour la confiance que Dieu nous fait de nous les révéler, les partager avec ceux qui les connaissent pas encore. Et puis que ça nous sert pour avoir en premier une vision des choses célestes, des choses cachées, des choses de Dieu, et que tout le reste devienne secondaire.